Chapitre 9. On ne se rend pas compte à quel point les calculateurs quantiques et leurs algorithmes ont bouleversé la vie des cités. Leur puissance, parfois incontrôlable, a permis de lancer des recherches statistiques complexes, qui, avec les calculateurs classiques, auraient pris des mois, voire des années, dans les énormes masses de données de Nilopin. Henry Lachman, professeur à l'Université de New York 2. Cité unifiée de Nilopa. Angus Ferrier gisait sur le carrelage du couloir, touché à la poitrine par le rayon du Taz. Le katana lui avait échappé des mains et avait glissé sur le sol, heurtant une cloison. Ses muscles paralysés n'obéissaient plus aux impulsions de son cerveau. Il gardait en revanche toute sa lucidité et des lueurs traversaient ses yeux mi-clos. Ganesh l'examina et le jugea apte à tenir une conversation. Une odeur indéfinissable, désagréable, suintait des portes entrouvertes des pièces desservies par le couloir et imprégnait l'intérieur du pavillon meublé de briques et de brocs. « Vous m'avez obligé à vous tirer dessus, Angus Ferrier, » déclara Ganesh. « Ne vous inquiétez pas, la paralysie ne dure que 2 heures environ. 1 heure et 17 minutes après analyse morphopsyché de la constitution physique du suspect. Moins 32 minutes écoulées, soit 45 minutes avant rétablissement de la coordination motrice. Il vous reste encore 45 minutes avant de retrouver la quasi-totalité de vos facultés, reprit Ganesh. Moins vous vous énerverez et plus tôt vous vous rétablirez. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous calmer. Nous, les fouineurs, étions passés maîtres dans l'art d'interroger des suspects. Les flics ou les enquêteurs ordinaires prétendaient que notre biopuce nous donnait une longueur d'avance. Et c'était en grande partie vrai. Les analyses morphopsychologiques instantanées des biopuces faisaient office de détecteurs de mensonges et nous aiguillaient sur les bonnes pistes. Mais je crois surtout que nous étions servis par notre légende. Les suspects nous prêtaient des pouvoirs extraordinaires. Et, pensant qu'il ne leur servait à rien de résister, espéraient que leurs aveux leur vaudraient un redressement génétique moins sévère ou, dans les cas plus bénins, une liberté conditionnelle exempte de toute correction. Nous nous arrangions évidemment pour entretenir notre légende, pour nous faciliter la tâche, et parce qu'elle conditionnait en partie le budget annuel que nous allouait la municipalité de Paris. Ganesh tira une chaise métallique près du corps toujours inerte d'Angus Ferrier, s'assit et posa le Taz sur ses cuisses. Première question. Avez-vous un jour ou l'autre fréquenté une prostituée du nom de Vera? Les yeux clairs d'Angus flamboyèrent d'abord de colère, puis se ternirent, comme empli de résignation.
Je m'en souviens pas.
La paralysie ne facilitait pas son élocution. Sa voix était étrangement douce pour un homme de son gabarit. Ganesh se concentrait pour comprendre ses propos. Analyse morphopsyché des traits et des yeux. Probabilité de dissimulation, 92%. Dites-moi d'abord pourquoi vous m'avez sauté dessus avec un katana quand j'ai sonné à votre porte, reprit Ganesh.
Je croyais que... Enfin, je suis en litige avec des gens.
Quels gens ? Angus tenta de ramper sur le sol. Il ne réussit qu'à se déplacer de quelques millimètres.
Pas des plaisantins, je peux vous l'assurer. Je leur dois un peu de fric.
Combien ?
30.
Seulement 30 ?
30 000 $, je voulais dire.
Ganesh siffla. Le grondement d'un hélicoptère filant au-dessus de l'île enfla dans le silence de la maison. C'est pas un peu de fric, mais une sacrée somme. Détection d'une addiction. Effet du manque estimé à moins de 20 minutes. Attention. Perte de connaissance ou perte de contrôle possible à tout moment. Vous leur avez acheté de la drogue, n'est-ce pas ? Demanda Ganesh.
On peut rien vous cacher, vous, hein ? Ouais, cette saloperie qu'on appelle le jug. Faut augmenter les doses chaque jour, sinon on ne sent plus aucun effet, et même... Ça vous balance une souffrance qui finit par vous rendre dingue.
Vous pourriez vous en débarrasser avec un correcteur génétique. Jug répertorié comme une drogue de type NN, nanoneuro, imperméable aux corrections génétiques.
Pas celle-là, mon vieux, objecta Angus.
Il parlait de plus en plus clairement, comme s'il s'adaptait à sa paralysie.
Une putain de belle saloperie. Soit elle vous tue, soit ce sont ceux qui vous la vendent d'un coup de lame dans le cœur. Parce que vous n'avez plus de quoi les payer.
Revenons à ma première question. Êtes-vous monté quelques jours avant la première attaque des ombres avec une prostituée prénommée Vera ?
Vera ? Je me souviens pas de ce nom.
Ganesh estima le moment venu de durcir l'interrogatoire. Te fous pas de moi, Angus Ferrier! Les yeux du suspect se révulsèrent tout à coup, et sa tête se renversa avec une telle soudaineté qu'elle heurta le carrelage. Les puissants s'entouraient de tant de protections qu'ils étaient finalement les moins bien placés pour anticiper et combattre le danger. Malgré leur réseau d'information et leur groupe d'influence plus ou moins secret, ils furent totalement pris au dépourvu par les attaques des ombres et la désorganisation qui s'ensuivit. Si gouverner, c'est prévoir, alors ils n'étaient pas de vrais gouvernants, mais des intrigants qui occupaient l'essentiel de leur temps à conquérir et consolider leur pouvoir. Le premier cercle de la fraternité étant complet, je déclare la session ouverte. Qui souhaite prendre la parole ?
Moi, si vous le permettez. Mes contacts me signalent qu'il existe de fortes tensions dans l'entourage du maire de New York.
Qu'il est possible d'exploiter ?
Nous ne le savons pas encore, frère. Selon nos premières informations, une minorité des grubs de New York a fait sécession pour mener l'enquête sur les ombres, en dehors de toute voie hiérarchique. La municipalité en a été informée et a commencé la chasse aux sorcières. Une dizaine de grubs ont été retrouvés morts au cours des deux derniers jours.
Pourquoi ont-ils fait sécession ?
Ils pensent avoir trouvé la piste des ombres.
Pourquoi refusent-ils d'en informer leur hiérarchie ?
C'est la question à laquelle mes contacts s'efforcent de trouver une réponse. Ils sont à peu près sûrs, en tout cas, que les grubs dissidents ont noué des contacts avec des fouineurs parisiens.
Il nous faut des noms, et vite.
Nous allons nous efforcer de vous les fournir très rapidement, frère.
Remuez ciel et terre au besoin.
Nous devons savoir sur qui nous pouvons compter et rassembler d'urgence nos forces avant la bataille décisive.
Perte de connaissance provoquée par le manque. Ganesh s'assura que Ferrier respirait encore avant de lui administrer la première gifle. Puis, il lui en assena plusieurs de suite, jusqu'à ce que ses yeux s'entr'ouvrent et qu'il marmonne
« Arrêtez de me cogner !»
Ganesh se releva, se plaça devant la porte et s'assit sur sa chaise sans verrouiller le cran de sûreté du Taz. Ferrier pouvait se remettre plus tôt que prévu de sa paralysie. L'un de ses amis pouvait surgir à tout moment.
« On parlait d'une prostituée du nom de Vera, » reprit-il.
« Je la connais pas, je te dis. Je suis qu'un junkie. Mais je me souviens encore des coins où je fourre ma queue et j'en connais pas un seul qui s'appelle Vera. »
« Pas de mensonge détecté.
Qu'est-ce qui me prouve que tu dis la vérité ? Ta satanée biopuce a déjà dû te le dire. Je m'intéresse pas aux femmes.
Probabilité homosexualité, 69%.
Tu es homosexuel ? » demanda Ganesh.
« Bon Dieu, oui, et je les aime plutôt jeunes. »
Mineur ?
Je suis pas fou, je prends que des majeurs. J'ai pas envie d'être condamné au redressement génétique. »
Alerté par un bruit, Ganesh se leva et alla jeter un coup d'œil dans l'allée par le judas de la porte. Il vit disparaître une joggeuse entre les ramures tombantes des arbres cernant la maison. Au second plan, une navette fluviale bleue et blanche transportait ses passagers à destination des quartiers du bord de la Marne.
À propos de correction, je te rappelle que la consommation de drogue est strictement prohibée,
dit-il après s'être de nouveau assis.
Crever en tôle ou ailleurs, soupira Angus. De toute façon, les ombres finiront par tous nous exterminer. Ni les fouineurs, ni les flics, ni l'armée, ni personne d'autre ne pourront les arrêter.
Ouais, je crois même que c'est la fin des cités, la fin de l'humanité. Tout le monde crèvera en même temps.
Ta cicatrice au cou, un rapport avec tes créanciers ?
Une bagarre qui remonte à mes 20 ans.
Pourquoi t'as pas utilisé la correction génétique ?
J'ai toujours eu une sainte horreur des manipulations génétiques.
Tu vas m'arrêter ?
Aucune raison.
Nous laissons les affaires de drogue aux flics.
Parce que vous êtes pas flics, vous autres, les fouineurs ?
Un conseil.
Ne traite jamais un fouineur de flic, ça pourrait le mettre de méchante humeur.
Ganesh comprit qu'il ne tirerait rien de plus d'Angus Ferrier. Une fausse piste, une de plus depuis l'apparition des ombres.
T'aurais pas un peu de fric ?
Génie Ferrier.
Pour m'acheter une dose, en dédommagement de ta putain de décharge électrique.
Combien ?
$100 devrait suffire.
Ganesh sortit 2 billets de $50 de la poche intérieure de sa veste et les posa à côté de la joue droite du suspect.
Merci, mon prince.
Une grimace déforma les lèvres d'Angus Ferrier. Une tentative de sourire, sans doute.
Désolé de ne pas t'avoir été plus utile.
Fouiller les fichiers virtuels de la CU revenait à peu près à explorer une galaxie dans un vaisseau spatial affreusement lent. Des billions et des billions de données s'étaient accumulées en une centaine d'années. Et, bien que performants, les systèmes mettaient parfois des jours et des jours à extraire une information précise. On nommait « archivistes » les logiciels dédiés à l'exploration des données. Comme il n'y en avait que 5 à la disposition des fouineurs de Paris, contre une bonne centaine pour les grubs de New York, ils n'étaient pas aussi efficaces que nous l'aurions souhaité. Aussi, nous procédions nous-mêmes aux recherches à l'aide de nos biopuces, nettement moins puissantes, mais qui présentaient l'avantage d'être disponibles. Évidemment, cette utilisation intensive se payait de terribles migraines, qui pouvaient se prolonger pendant plusieurs semaines.
Comment ça s'est passé ?
Ganesh se laissa tomber sur le vieux fauteuil récupéré dans un local condamné du central. J'ai suivi une piste suggérée par une prostituée du nom de Vera. Elle n'a encore rien donné, mais il me reste un suspect à interroger.
Et toi ?
Théodore se posa sur un coin du bureau, retira son chapeau et essaya de redonner du volume à ses cheveux roux.
Coup de chance. J'ai pu récupérer un archiviste pour éplucher les mouvements financiers de ces derniers mois. Heureusement, j'ai pas été obligé de lancer ce genre de recherche avec ma biopuce. J'en aurais eu pour des mois et j'en aurais été quitte pour une sacrée migraine. Pour l'instant, l'archiviste n'a rien relevé de passionnant. Mais je n'ai pas laissé ma biopuce au repos. J'ai commencé à m'intéresser aux organisations plus ou moins secrètes qui gravitent autour de la mairie de Paris.
Alors ?
Certaines de ces sociétés se croient protégées, mais on pénètre dans leur domaine crypté comme dans du beurre mou. La plupart sont issues des anciennes loges maçonniques. Leurs membres se contentent de réfléchir sur le devenir des cités unifiées tout en grignotant des petits fours et en buvant du champagne reconstitué. De temps à autre, elles soutiennent un candidat dans la course à la mairie ou bien elles essaient d'obtenir des avantages des administrateurs en place. Mais les probabilités sont infimes, pour ne pas dire nulles, qu'elles aient un lien quelconque avec les ombres. Leur seul résultat concret est de générer un sentiment fallacieux d'appartenance et de puissance chez leurs membres. Elles sont parfaitement inoffensives. Ça tient du théâtre ou du jeu de rôle.
Ganesh se rendit dans le coin cuisine et remplit d'eau la bouilloire transparente. Tu en as recensé beaucoup ?
Des dizaines. C'est ça le plus étonnant, leur nombre. Alors qu'elles fonctionnent sur ce seul principe, entretenir l'illusion de faire partie d'une élite. Ma biopuce en dénichera certainement d'autres, au cryptage un peu plus résistant. 3 me paraissent plus intéressantes parce que vraiment secrètes et aux motivations obscures.
Des sociétés satanistes parmi ces 3 ?
Marrant que tu me dises ça. L'une d'elles se fait appeler la Légion de Satan. Je sais pas encore grand-chose, sinon qu'elle organise des cérémonies noires lors des nuits de pleine lune. Ma biopuce essaie de décrypter les communications entre ses membres. J'ai déjà la nette impression qu'elle sert d'écran à d'autres activités.
D'après ce que m'a dit la prostituée, son client affirmait quelques jours avant les attaques des ombres que l'humanité serait bientôt détruite par un ennemi indétectable et invincible. Ça peut s'appliquer à la fois à une organisation sataniste et aux ombres, tu trouves pas ?
Si. Et je m'étonne que les flics n'aient pas utilisé le témoignage de cette fille. Et si nos deux pistes convergeaient, Ganesh ?
La 10e attaque des mystérieux meurtriers qu'on appelle les ombres a eu lieu ce matin à Clignancourt. Le bilan serait une nouvelle fois très lourd. Les morts se compteraient par centaines, voire par milliers. L'attaque s'est déroulée selon un processus désormais classique, sans qu'aucun signe avant-coureur ne prévienne la population du quartier, sans qu'on ait relevé la moindre trace d'effraction, ni le moindre indice. Pire, sans que les analyses des cadavres ne révèlent la cause précise des décès. Les citadins des quartiers voisins sont très choqués, et la révolte est grande contre la mairie. Le bureau de la communication de la municipalité refuse pour l'instant de répondre à nos questions, ce qui semble indiquer un très grand embarras dans l'entourage du maire. On constate les mêmes phénomènes à New York et à Londres. Une administration déboussolée, impuissante, une population désespérée, révoltée, une situation explosive. 2 émeutes ont secoué un quartier de New York la nuit dernière, mobilisant une grande partie des forces de l'ordre. La municipalité a décrété le couvre-feu. On craint les mêmes débordements à Londres et à Paris. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite des événements. Merci de rester avec nous pendant l'intermède publicitaire. Théodore éteignit l'écran transparent et alla une nouvelle fois consulter les données crachées par l'archiviste.
« Les citadins perdent espoir, » grommela-t-il. « Ils vont finir par péter les plombs. »
Ganesh s'approcha de l'appareil posé sur le bureau. Une coque blanche en forme de demi-sphère, un écran rectangulaire en relief plutôt modeste, rien d'extraordinaire à première vue. Des fiches en papier transparent jaillissaient de temps à autre de l'imprimante 3D installée dans un coin de la pièce. Il marche comment, ton archiviste ?
Il est équipé de processeurs hyper puissants qui utilisent un nouvel algorithme, précisa Théo. Il décrypte les domaines protégés. Les résultats s'affichent sur l'écran et sont classés par ordre de probabilité, de la plus haute à la plus basse, selon les critères définis par la biopuce. Comme tu peux le constater, la Légion de Satan arrive en deuxième position, après cette autre organisation appelée la Main Noire. Les probabilités que ces deux-là aient un quelconque rapport avec les ombres sont relativement faibles. 9,82% pour la Main Noire, 7,45% pour la Légion de Satan. Mais comme elles se classent en haut de la file, elles ouvrent des pistes prioritaires.
Personne d'autre que toi n'a eu l'idée de mener ce genre d'enquête ? Théo sourit, à la fois angélique et sardonique.
Personne ne pense comme moi, de la même manière que personne ne pense comme toi. C'est ce qui fait notre spécificité et continue de nous donner une légère supériorité sur les calculateurs quantiques. Pour combien de temps ? Les quantas n'utilisent pas la seule logique. Ils sont capables d'initiatives très proches de la pensée humaine. Ils peuvent, comme nous, se montrer imprévisibles, aberrants.
Ganesh observa l'écran avec attention. « C'est quoi ces fenêtres ?» Théodore vint se placer à ses côtés.
« On les consulte en approchant l'index. Elles affichent les activités récentes des différentes organisations décryptées. Voyons ce que nous dit la fenêtre de la Main Noire. Elle milite pour une extermination totale des populations hors site. Selon sa doctrine, le monde extérieur doit être nettoyé au sens propre et figuré, pour préparer l'ouverture des cités unifiées et la dissémination des citadins sur la Terre. »
Les ombres s'attaquent aux populations citadines, rien à voir. Théodore approcha l'index de l'écran. La fenêtre grossit au point d'occuper tout l'espace. Il déplaça son doigt de haut en bas pour entraîner le défilement des données.
Tiens, tiens, les probabilités sont importantes que certains membres de la Main Noire soient très proches de la mairie de Paris.
Tu as des noms ?
Non, mais en recoupant les déplacements tracés par les biopuces de certains membres... On s'aperçoit qu'il fréquente régulièrement l'hôtel de ville.
« Ça ne veut rien dire, » objecta Ganesh. « Ils peuvent être employés ou fournisseurs. » Théodore continua de consulter la fiche de la Main Noire.
« Ça coûte rien de remonter les pistes. Certaines partent d'ici, d'ailleurs. »«
Tu veux dire que certains fouineurs seraient membres de la Main Noire ?»«
Ce serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des anges gardiens se métamorphosent en légionnaires du mal. »«
Tu n'as rien d'autre ?»
Rien pour l'instant.
Ganesh se dirigea vers la porte du bureau. Je pars à la pêche de mon deuxième suspect.
Bonne chance.
Que savez-vous du fouineur Théodore Bernier ? La voix de Caton produisait toujours la même sensation, Amina. Un serpent venimeux déroulant ses anneaux à l'intérieur de son cortex. Je ne suis pas sa gémine, mais je sais, par la consoeur qui le suit, qu'il est du genre indépendant, imprévisible. Son caractère lui a valu de nombreux déboires avec la hiérarchie. Aucune information sur sa vie privée. Il sait très bien se protéger. En dehors de ça, je crois que c'est un excellent élément, intelligent, obstiné. Pourquoi me parlez-vous de lui, monsieur ? Pour avoir votre avis. Vous, les Gémines, vous êtes les mieux placés pour observer les fouineurs, puisque vous les suivez quasiment en permanence.
Pas quasiment, monsieur. En permanence.
Vous prenez des temps de repos, me semble-t-il.
La plupart du temps, nous nous arrangeons entre nous pour travailler 7 jours d'affilée. Nous utilisons des correcteurs nano-neuraux pour nous maintenir en veille.
J'ai étudié vos dossiers. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi vous avez choisi ce métier.
Le syndrome de l'ange gardien, je suppose.
Expliquez-vous. Il paraît que toutes les femmes ont le désir inconscient de sauver les hommes.
Les sauver ? De quoi ?
D'eux-mêmes.
Toujours aucun problème à signaler pour celui dont vous êtes l'ange gardien ?
Aucun.
Les analyses montrent que la symbiose entre la biopuce et lui a parfaitement réussi. Pas de migraine à signaler, courbe impeccable. Comme vous me l'aviez demandé, je ne suis jamais intervenu depuis qu'il a été intégré au corps des fouineurs. Il a toujours réussi à s'en sortir par lui-même.
C'était l'idée.
Le laisser se débrouiller seul, constater jusqu'à quel point sa biopuce peut l'assister. Il va falloir s'habituer à l'idée que nous, les Gémines, nous ne servirons bientôt plus à rien.
On ne peut arrêter le progrès, mademoiselle. À propos, d'où vous vient ce nom de Gémine ?
D'un personnage d'un antique dessin animé appelé Gemini Cricket, monsieur.
Qui est là ? Conscient qu'on l'observait de l'autre côté de la porte noire, Ganesh serra la crosse du Taz enfouie dans la poche de sa veste. « Je suis bien aux trois places des pères fondateurs ?» Montrouge faisait partie de ces quartiers entièrement rasés pendant la Grande Guerre et reconstruits selon les dernières normes en vigueur dans la CU. Pavillons identiques des deux côtés des rues bordées d'arbres, toits, ouvertures et façades filtrants, impressions déroutantes de duplication outrancière, d'uniformité, d'artificialité. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda la femme d'un ton rogue. « Je suis fouineur du bureau de Paris. Je cherche Philémon Barthès. C'est bien ici qu'il habite. » « Oui, mais... » Des bruits retentirent de l'autre côté de la porte. « Madame ?» insista Ganesh. « Il n'est pas là !» Biopus du suspect Philémon Barthès détecté. Présence physique confirmée. Du pouce, Ganesh déverrouilla le cran de sûreté du Taz. Ouverture de la porte. Ouverture dans... La porte s'ouvrit brutalement et livra passage à un homme qui bouscula Ganesh, le renversant presque, avant de courir vers l'extrémité de la rue. « Arrêtez-vous !» Le temps que Ganesh se remette de sa surprise, se rétablisse sur ses jambes et dégage le Taz de sa poche, l'homme était hors de portée. « Merde ! Il va falloir cavaler !» Le pouvoir, plus on en a et moins on le partage. Proverbe de Trois Aubes. Pays hors site. Un grincement de verrou précéda de peu l'ouverture de la porte. Geoff, le gardien, s'introduisit dans la petite chambre, toujours accompagné de son molosse. Un large sourire barrait son visage habituellement soucieux. « Graart te demande, de lune. Ça faisait 2 jours qu'il pionçait. T'es sûr que tu lui as pas refilé une herbe de sommeil ?»«
La pulvérulente peut avoir des effets secondaires. Ça dépend du métabolisme de celui qui la prend. » »«
Je comprends pas toujours ce que tu dis, de lune. »
C'est le langage des guérisseurs. Le gardien secoua la tête comme pour se débarrasser de pensées embrouillées.
« Bon, ramène-toi. Graart nous attend. »
On donnait souvent le nom de palais aux maisons des chefs de clan, même si elles étaient plus grandes que les autres habitations. Souvent de simples baraques de tôle d'une ou deux pièces. Elles n'avaient rien à voir avec les palais des contes et légendes d'avant la guerre. Certaines étaient flanquées d'excroissances hideuses censées rappeler les tourelles des châteaux de l'ancien temps. D'autres s'entouraient de remparts de briques et de brocs dont la fonction restait purement symbolique. À Trois Aubes, les clans se répartissaient par quartier. Les habitations des membres du clan se resserraient autour de la maison du chef, parfois aussi grande à elle seule que tout le reste du quartier. Les rues étaient étroites, sinueuses, sombres, traversées par les rigoles de déchets et hantées par les rats noirs. Des artères plus larges permettaient aux véhicules à moteur de circuler. Mais l'essence se faisait si rare qu'il se passait parfois plusieurs jours sans que ne retentisse le moindre vrombissement dans le cœur de l'agglomération. Assis dans un large fauteuil de bois garni de coussins, Graart toisa les deux visiteurs face à lui. Les plaies de son visage semblèrent moins profondes à Delune, comme si les chairs s'étaient un peu refermées, peut-être un effet secondaire de la pulvérulente. Sans doute existait-il une plante spécifique pour soigner le prédateur intérieur qui grignotait peu à peu le chef du clan du Perce-Oreille. Le regard de Graart s'attarda un moment sur le jeune guérisseur avant de se poser sur le gardien. « T'as joué avec le feu, Geoff, » déclara-t-il. « Imagine que ce gars-là, avec sa connaissance des plantes, ait décidé de m'empoisonner. » Geoff pâlit et tira avec nervosité sur la laisse de son molosse, qui poussa un grondement de protestation.
« C'est toi, Graart, qui a voulu qu'il t'examine. »
Graart se pencha sur le côté, faisant glisser sa cape de fourrure sur son torse massif, criblé comme son visage de cratères purulents. Un feu craquait dans la cheminée, éclairant de lueurs dansantes la grande pièce meublée d'une longue table, de bancs, de tabourets et de peaux de bête.
« Quand on est dans une de ces putains de crises, » reprit Graart, « on perd la tête. On serait prêt à faire n'importe quelle connerie pour arrêter la souffrance. On manque de prudence, et un chef de clan ne doit jamais, jamais manquer de prudence. En me l'emmenant, tu m'as mis en danger. Tu as mis le clan en danger. »
La face de Geoff n'était plus qu'un masque sculpté par la frayeur.
J'ai juste pensé que Delune pouvait te soulager.
Parce que tu penses, toi, maintenant !
Tonna Grar.
C'est nouveau, ça ! Et pourquoi t'as pensé ça ?
Je sais pas au juste, je t'ai entendu crier, le prisonnier m'a dit qu'il était guérisseur. Je me suis dit qu'il n'y avait pas grand risque à ce qu'il t'examine.
Je venais tout juste de l'acheter, il avait des raisons de m'en vouloir. Il aurait pu se venger.
Delune jugea le moment opportun de s'immiscer dans la conversation. Il éprouvait de la sympathie pour Geoff, son seul confident durant ses premiers jours de captivité.
Nous refusons de recourir à la violence dans le clan du Haut-Lieu.
Grar lui lança un regard incrédule.
« Me dis pas que t'as jamais tué quelqu'un. »«
C'est arrivé une fois, » répondit Delune.
« J'ai rompu la neutralité du clan et j'ai dû partir. »«
Comment c'est arrivé ?»«
Je suis intervenu pour éviter à une fille d'être violée et tuée pendant une guerre de clan. »«
Je vois rien d'anormal là-dedans. » »«
Le principe de neutralité, c'est justement de ne pas intervenir, pour pouvoir soigner les combattants des deux bords. »
T'aurais donc dû laisser mourir cette fille?
Disons, essayer de la sauver sans tuer son agresseur.
T'étais amoureux d'elle?
Je la connaissais pas.
Grar se rencogna dans son fauteuil et garda un temps la tête tournée vers le plafond, comme plongé dans une intense réflexion.
T'es vraiment un drôle de gars, Delune. Mais ton remède a été efficace,
reprit-il sans baisser la tête.
Ezok a beau essayer de me persuader que tu n'as rien à voir là-dedans. Je sais ce qu'il en est. Je connais la durée habituelle des crises. J'en connais aussi les lendemains. Cette douleur sourde qui ne vous lâche pas, comme une bête tapie dans vos reins et qui ressurgit à la première occasion pour vous mordre. Là, je sens plus rien, plus aucune douleur. Comme si la bête était sortie de sa cage.
La pulvérulente agit vite, précisa Delune. « Si vos cailloux se reforment, il vous suffira d'en boire une décoction. Ils repartiront aussitôt. »
Grar frissonna et remonta sa cape de fourrure sur son épaule. Delune estima que si le chef du clan ne s'occupait pas rapidement de son cancer pernicieux, il mourrait dans moins d'un an.
« Ezok n'est plus qu'un vieil imbécile. Il ne pense plus à guérir mais à empoisonner ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. J'ai besoin de sang neuf et d'un véritable herboriste. » À partir d'aujourd'hui, Delune, tu deviens le guérisseur officiel du clan. Quant à toi, Geoff, tu recevras 200 traubes et tu feras désormais partie de ma garde personnelle.
Le gardien s'inclina, autant pour rendre hommage à son chef que pour contenir sa jubilation.
Je t'en suis reconnaissant, vénéré Grar.
Quand une initiative est bonne, elle doit être récompensée. Mais si vous me trahissez, vous deux, votre châtiment sera à la hauteur de ma déception.
Le moteur du camion ronronnait doucement. Ballotté par les chaos, Naya s'était assoupie. Une secousse plus brutale la réveilla. Yosp se tenait en face d'elle, assis sur le plancher. Les rayons de lumière qui se glissaient par les interstices de la bâche ne dissipaient pas la pénombre. Les chasseurs avaient enfermé les sauvages capturés dans deux autres camions en compagnie des chiens et les trois véhicules dissimulés par des branchages et gardés par cinq hommes s'étaient ébranlés. Ils roulaient à une allure que Naya jugeait désespérément lente, sans doute pour économiser le carburant.
« Ces couvertures puent !» maugréa-t-elle. « Vivement qu'on puisse se laver et mettre de vrais vêtements !»«
J'ai plus froid, moi !»
objecta Yosp.
« Ouais, je te rappelle que c'est pour te chercher des vêtements que Delune est partie dans l'agglomération. »
« L'homme méchant cherche à le tuer, patati patata !»
l'interrompit Naya.
« Arrête avec ça, on commence à connaître !»«
J'entends ses pensées !»
continua Yosp d'une voix forte pour dominer le grondement du moteur.
« Il est en colère contre Delune. Il discute avec d'autres hommes méchants, eux aussi. Ils veulent se venger !»
Naya frissonna et resserra les pans de la couverture sur sa poitrine, malgré l'odeur épouvantable qui s'en dégageait. Ça veut dire en tout cas que Delune est toujours vivant. Une fois qu'on sera dans l'agglomération, on partira à sa recherche. Enfin, s'ils nous rendent notre liberté. Ils ont capturé au moins 20 sauvages, mais je me demande ce qu'ils vont faire de nous. Même s'ils ont voulu nous saigner sur leur satanée pierre, ça me fait mal au cœur de voir ces pauvres bougres entassés dans un filet.
J'ai faim,
gémit Yosp.
« Ah ouais, c'est vrai. Quand t'as pas froid, t'as faim. La conversation est limitée avec toi. Désolé, j'ai pas de cadavre sous la main. »
Yosp se renfrogna et se recroquevilla sous son pan de tissu avant de marmonner.
« Il y a plein de gens. Ils nous regardent d'un drôle d'air. »«
Il y a personne ici, » objecta Naya. « On est tout seul, enfermé dans un camion qui secoue pire qu'un tremblement de terre. »«
Les gens, ils ont peur. Ils crient. Ils disent que la malédiction est arrivée à cause de nous. »«
T'es dans quel temps, là ?»«
Je sais pas. C'est comme ça que les heures me parlent. Les gens disent qu'on doit mourir pour que la malédiction s'arrête. Ils sont tout autour de nous. On doit s'en aller, mais on peut pas. Quelqu'un nous attend. »
Qui ?
Je sais pas. Je sais pas.
Naya se sentit débordée de compassion pour le petit homme.
C'est pas reposant, ton truc, Yosp. Tu peux pas dire aux heures de te foutre la paix ?
Non, elles sont en moi. Elles parlent en moi.
Le ronronnement du moteur décrut brusquement. Le camion s'immobilisa après un ultime chaos. Des éclats de voix, des aboiements, des plaintes et des grincements transpercèrent la bâche.
« Je crois bien qu'on est arrivé, »
murmura Naya. On n'était jamais sûr de rien dans une agglomération comme Trois Aubes. Vous ne saviez jamais si l'homme ou la femme que vous croisiez n'allait pas vous planter un poignard dans le dos. On était donc toujours aux aguets, on marchait avec des yeux dans la nuque. On changeait de direction lorsqu'on voyait une bande surgir d'une ruelle perpendiculaire. Même si vous n'aviez pas contrevenu aux intérêts d'un clan, même si vous n'aviez offensé personne, vous risquiez à tout instant de tomber dans une embuscade. À Trois Aubes, quelqu'un avait toujours une raison, bonne ou mauvaise, de vous en vouloir. Le soleil encore pâle arrosait Trois Aubes de ses rayons obliques. Des hommes et des femmes déambulaient de chaque côté de la rigole centrale, où des rats noirs fouillaient inlassablement les déchets.
« Delune !»
Delune se retourna. Il ne vit d'abord personne de sa connaissance dans la ruelle. Puis, une silhouette familière fendit un petit groupe et s'avança vers lui. Une femme enveloppée dans une cape de peau de rat.
« Gwenil, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. »
Des mèches de cheveux gris s'échappaient de la large capuche de Gwenil. La fatigue ou le chagrin avaient rougi ses yeux sombres.
« C'est Dark, »
bredouilla-t-elle.
« Ils l'ont tué. »
Delune n'en fut pas vraiment étonné. La cupidité de Dark le condamnait à une mort violente dans un environnement aussi brutal que Trois Aubes.
« Qui ?»
Gwenil renifla bruyamment avant de répondre.
« Ce qu'il avait aidé à te capturer. Je lui avais dit à cet idiot qu'il ne devait pas s'en prendre à un guérisseur. Que la malédiction retomberait sur lui. Il n'a rien voulu entendre. »
L'argent le rendait fou. Il a payé des sourieurs pour se débarrasser des autres, mais ça n'a pas marché. Et moi, je leur ai dit où il cachait son argent. Elle éclata en sanglots.
Pourquoi tu le leur as dit ?
Demanda Delune.
Je voulais revenir à la maison, mais pas tant qu'on y garderait l'argent de la vente. L'argent de la honte. Les autres m'avaient promis de l'épargner. À croire qu'une promesse, ça vaut plus rien dans Trois Aubes. Faut dire qu'il leur a tiré dessus avec le vieux fusil qu'il planquait dans la cachette où il met son fric. Il les a manqués. Alors ils se sont jetés sur lui et ils l'ont.
Elle fut secouée par une nouvelle crise de larmes.
J'ai même pas pu retrouver son corps. Ils l'ont jeté au rat.
Delune lui posa la main sur l'avant-bras.
Je suis désolé, Gwenil.
Elle essuya ses larmes d'un revers de main. Des passants leur jetèrent des regards intrigués.
Je peux pas dire que je l'aimais, ce vieux Grigout Dark, mais sans homme, sans enfant. Une femme de mon âge n'a guère de chance de passer l'hiver dans Trois Aubes. Certains se sont déjà installés dans ma maison. Et j'ai plus personne pour me défendre.
« J'en parlerai à Grard, si tu veux, » proposa Delune. « Je suis devenu le guérisseur officiel du clan du Perce-Oreille. » Gwenil le prit par l'épaule et l'entraîna vers une autre ruelle.
« Je le savais. Et c'est surtout pour ça que je voulais te parler. Allons dans un endroit tranquille. Faut pas qu'on nous voit trop longtemps ensemble. »
Non, on n'était jamais sûr de rien dans un endroit comme Trois Aubes. Encore moins des renseignements qu'un aimable passant vous donnait. Comment savoir si votre interlocuteur n'était pas lui-même manipulé par une faction ? L'endroit rappelait à Delune la cave où Dent de Rat entreposait ses bocaux et ses décoctions. Même voûte de pierre, même sol de terre battue, même odeur de moisissure, même pénombre à peine égratignée par les rayons lumineux qui s'infiltraient par d'invisibles passages. Des bouteilles grises de poussière reposaient à l'horizontale sur des casiers métalliques. Gwenyl et Delune y avaient accédé par une succession d'escaliers, certains en partie éboulés.
« Je suis la seule à connaître ce coin, » dit Gwenyl. « Ici, personne ne pourra nous voir ni nous entendre. »«
De quoi as-tu peur, Gwenyl ?» demanda Delune. Elle baissa le capuchon de sa cape et le fixa d'un air grave.
« Tu devrais plus jamais te promener seule, Delune. »«
Pourquoi ?»«
Il y a un contrat sur ta tête. »«
Qui pourrait m'en vouloir ? Je n'ai fait de mal à personne. »
« Tu as pris la place d'Ezok. »«
Non, puisque Grar a décidé de le garder. » Gwenyl s'assit sur une grosse pierre et secoua la tête d'un air farouche.
« Il en a toujours besoin comme empoisonneur, mais tu as pris sa place de guérisseur. Et ça, c'est une terrible humiliation pour Ezok. Il te le pardonnera jamais. »«
Ça lui passera.
Il a déjà pris contact avec une bande de sourieurs, les plus féroces de Trois Aubes. À partir de maintenant, ils peuvent te tomber dessus à tout moment. »
Delune sentit courir dans ses veines le fredonnement glacé de la peur.
Tu en es sûr? On n'est jamais sûr de rien, mais mes informations sont fiables. Je suis inquiète pour toi.
Merci de m'avoir prévenu.
Ne me remercie pas. Je t'aime comme le fils que j'ai pas eu. J'aurais dû convaincre Dark de te relâcher. Je savais que le malheur entrait chez nous avec cette histoire. J'ai pas été assez forte, pas assez persuasive. À propos, j'ai un cadeau pour toi.
Les lunettes que tu as essayé de lui voler, je les ai récupérées,
et je te les offre. »
Elle farfouilla à l'intérieur de sa cape et en tira une paire de lunettes que Delune reconnut immédiatement.
« Je les accepte, » dit-il. « Pas pour moi, mais pour quelqu'un qui a les yeux fragiles. Merci pour tout, Gwenyl. »
Son sourire redonna un semblant de gaieté à son visage, éclairé par la lumière crue des rayons tombant dans la cave.
« Fais très attention à toi, Delune.
Tu récupéreras bientôt ta maison, je te le promets. »
Où pourrais-je te prévenir? Ne t'inquiète pas, je le saurai. On sait toujours tout à Trois Aubes. Tu viendras me voir chez moi quand le moment sera venu.
Pitbus s'engouffra dans le vestibule où Dronka, chef du clan du Lynx, venait de congédier les derniers visiteurs.
22 prises en bon état!
S'exclama celui que le clan considérait comme le second, le successeur.
Bonne chasse! On devrait pouvoir en tirer 4000 traubes. Un bon paquet pour le clan du Lynx. On va pouvoir s'acheter de l'essence. 500 troupes de plus, si on rajoute cette fille que les sauvages s'apprêtaient à sacrifier.
Dronka, lui, savait que jamais ce garçon, courageux au demeurant, n'occuperait le poste de chef. Il manquait de patience, de clairvoyance, d'envergure. Elle et le drôle de petit homme qui était avec elle, on ne les vendra pas, répliqua-t-il d'un ton tranchant.
D'accord, le gnome, on n'en tirera rien, argumenta Pitbus. « Mais elle est jeune et en bonne santé, elle vaut de l'or. »«
Moi, je dis que c'est le garçon qui vaut de l'or. »
Pitbus fixa son chef pour tenter de savoir s'il ne se moquait pas de lui. Mais il ne décelait aucune trace d'humour dans les yeux ni sur le visage de Dronka.
« Se dégénérer ? Il lui reste plus grand-chose d'humain. »«
C'est une vigie, Pitbus. Quelqu'un capable de prédire l'avenir. » Il peut nous rendre d'immenses services. »
Pitbus exprima son dépit d'un geste que Dronka aurait pu juger offensant.
« On n'en a aucune preuve. Il a parlé d'une attaque dans la forêt. On est parti avant de vérifier s'il avait raison. »
Conscient que l'impudence de son interlocuteur cachait une ambition démesurée et une envie féroce de l'éliminer, Dronka se promit de lui régler rapidement son compte. Il fallait écraser le serpent avant que sa morsure devienne mortelle.
« Peut-être qu'on serait plus là si on ne l'avait pas écouté, » déclara-t-il d'une voix calme.
« Souviens-toi de l'intrusion des cavaliers de l'Apocalypse à Trois Aubes. Personne n'avait été prévenu. Et sans leur inexplicable disparition, ils auraient exterminé toute la population. Je pense que c'est grâce à lui, grâce à ses prédictions, que la fille s'est sortie vivante du pays sauvage. Admettons qu'on garde le garçon. On peut quand même vendre la fille, non ?
Il est comme un oisillon effrayé, il a besoin d'elle. »
Tu disais pourtant que le clan ne tolérerait pas de bouche inutile.
Elle aura une fonction. Veiller sur la vigie.
Des lueurs sombres s'allumèrent dans les yeux de Pitbus.
Des fois, je me demande...
Qu'est-ce que tu te demandes, Pitbus?
Rien. C'est toi le chef, Dronka.
J'ai autrefois connu une vigie. Kelb, il s'appelait.
De l'être humain, il avait l'allure générale, une tête, un tronc, deux bras, deux jambes. Le reste, les traits, les yeux, la peau, les poils, ne ressemblaient à rien de connu. Kelb avait le don de double vue. Tout en voyant ce qui se passait autour de lui, il percevait aussi des scènes qui se déroulaient à plusieurs kilomètres de distance. Si bien qu'il pouvait prévenir des attaques ou déjouer des complots. Précieux il l'était pour son clan, qui le vénérait comme un dieu et le protégeait comme un trésor. Mais il était un animal en cage, même si c'était une cage dorée. Et j'ai parfois entrevu une souffrance muette dans ses yeux. Une vigie n'est pas taillée pour le bonheur. Mais qui est fait pour le bonheur dans le pays hors site? De Lune reconnut la grève où il avait quitté Naya et Yosp. Geoff maugréait depuis qu'ils étaient sortis des limites de l'agglomération. Il avait lâché son molosse qui gambadait joyeusement à leur côté et lui avait retiré sa muselière, puisque Sitio, étant habitué à son odeur et à sa bouille, De Lune n'avait plus rien à craindre de lui. Le soleil brillait de tous ses feux dans un ciel bleu et immobile. Les derniers beaux jours avant l'arrivée de l'hiver. De Lune fendit la forêt des roseaux pour s'approcher du bord du fleuve. « Qu'est-ce que tu es venu chercher dans le coin ?» demanda Geoff. « Les deux personnes avec qui je suis arrivé jusqu'ici. » De Lune fouilla les environs du regard, mais ne repéra aucune trace de Naya ou de Yosp.
« C'est dingue que Grar t'ait laissé sortir de trois aubes !» marmonna Geoff.
« Pourquoi ? Avec un protecteur comme toi, je ne risque rien, non ?» Geoff surveilla du coin de l'œil les mouvements de son chien entre les buissons et les herbes.
« Je suis pas tranquille. Il y a des bruits qui courent à trois aubes. »«
Naya ! Yosp !»
héla de Lune. Aucune autre réponse que le murmure de l'eau et les frisellis des frondaisons. « J'ai dit à Grar que j'avais besoin de plantes, » reprit-il. « On est au moins à 4 lieues de trois aubes. T'es sûr que c'est l'endroit où tu les as laissés, tes amis ?»«
Il y ressemble beaucoup, en tout cas. Il suffit de retrouver la barque avec laquelle on est venu. »
Il explora les environs jusqu'à ce qu'il retrouve le tas de branchages sous lequel il avait camouflé l'embarcation.
« La voilà !»
Il entra dans l'eau jusqu'aux genoux et commença à la dégager. Geoff siffla son chien avant de rejoindre De Lune au bord du fleuve.
« C'est avec cette coquille de noix que vous avez remonté le fleuve ?» s'étonna le gardien.
« Elle n'a pas l'air en très bon état. »«
Naya ! Yosp !»
cria de nouveau De Lune.
« Hé, crie pas si fort !»
grogna Geoff.
« Pourquoi ? Il n'y a personne d'autre que nous ici. On peut nous avoir suivis à la sortie de Trois Aubes.
Sois pas si parano !»
Geoff scruta les environs du regard et caressa le flanc de Sitio.
« Si tu avais vécu comme moi toute ta vie dans Trois Aubes, tu serais aussi méfiant. Ils n'ont pas l'air d'être là, tes amis. »«
Naya ! Yosp !
Ça fait combien de temps que vous vous êtes séparés ?
6 ou 7 jours ?»
De la pointe de sa botte, Geoff dégagea un petit objet jaune de la boue de la grève.
« Ils seraient morts de faim s'ils étaient restés là sans bouger. Tiens, là, regarde, une douille. Et là, les herbes couchées, les branches cassées. Il y a eu du grabuge dans le coin. À mon avis... » Tes amis se sont fait capturer par un clan pillard ou une tribu sauvage. »
Il se pencha au-dessus d'un buisson et se releva en brandissant un carré d'étoffe.
« Il y a même ça !»
Le cœur de De Lune se serra lorsqu'il examina le tissu. Un pan de la chemise de Naya.
« J'aurais pas dû les laisser, » murmura-t-il au bord des larmes.
« Ça appartient à la fille que t'as sauvée et dont t'as parlé à Grar, pas vrai ? Et t'es amoureux d'elle ?»
Geoff était moins stupide qu'il paraissait.
« On a juste fait un bon bout de chemin ensemble !» se défendit De Lune. « Comment savoir s'ils ont été capturés ?»«
Faudra demander au clan chasseur s'ils n'ont pas ramené dans leur filet une fille du nom de Naya, c'est ça ? Et un garçon du nom de... c'est quoi déjà ?
Yosp,
c'est ça. S'ils n'ont rien ramené, on saura qu'ils ont été enlevés par une tribu sauvage. Et là, mon vieux, il n'y aura plus rien à faire pour eux. »
De Lune se raccrocha de toutes ses forces à un mince espoir. Yosp prédit l'avenir immédiat. Ils ont pu leur échapper. Ils se sont peut-être réfugiés ailleurs.
J'y crois pas. Bah, t'as été adopté par le père Soreil maintenant. Des filles, t'en trouveras d'autres. Et si celles du clan ne conviennent pas, tu achèteras une belle sauvage à la criée.
J'achèterai jamais personne, protesta De Lune.
Tu dis ça maintenant. Mais le temps va passer, tu l'oublieras.
Tu fais chier, Geoff. Je t'ai dit que j'étais pas amoureux d'elle.
Ça va, pas la peine de...
Un craquement retentit tout près. Sitio allongea le museau et gronda en sourdine. Geoff tira son revolver à la crosse de bois et le pointa en direction du bruit. La rive du fleuve, si paisible quelques instants plus tôt, semblait dissimuler une multitude de dangers.
« Il y a du monde dans le coin !»
chuchota le gardien.